Vous écoutez, reprenons depuis le début.
Cet été, on vous lit Impossible,
un roman de Eri De Luca.
Épisode 1.
Question. Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée.
Réponse. Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages, à plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit.
Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant.
Peut-être, mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogée par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir.
Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée.
Je me réveille tôt, vers 5h. J'attends 7h pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles en dehors des sentiers battus pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bandiarac, en Valbadia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Campana Alpina au col de Lotia. À 7h30, il n'y a personne encore. J'ai été étonnée de voir quelqu'un plus haut qui me précédait.
Un homme ?
Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lacer leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix. Il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos.
Vous voyez, cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant, continuez.
Je suis jusqu'au moment où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cet homme. Il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux ainsi, je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation. Pendant que ma tête passe de pensées légères à d'autres plus solennelles, à des images, couplets de chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis mais je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivée au bout du sentier, au col de Lotia, où commence le plateau de Fan, sans avoir à dépasser qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire du Bandiarac, au pied de la paroi verticale du Pis Conturines. C'était un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait dans cette direction m'a agacée.
Elle se hâtait ?
Du col de Lotia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction, à pas plus lent. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment. Puis je l'ai retrouvé à nouveau, au début du passage sur la vire. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau.
Vous l'avez revu combien de temps après ?
Pas plus de 2 heures après. Il marchait craintivement.
Craintivement, c'est-à-dire ?
Il s'appuyait sur la paroi. Sur le sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant à la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis.
Je vois. Continuez.
Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration, de regarder fixement par terre, un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit, parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire du Bandiarac, il faut faire les bons pas à côté du précipice. J'ai avancé ainsi encore 1 heure, environ. Je suis arrivée à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé balaient les portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer, je devais rebrousser chemin. C'était sans regret, mon but est de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose au fond. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement. Puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé en 20 minutes. Ensuite, je suis revenue sur mes pas. Et maintenant, depuis quelques jours, je répète cette journée pour la 3e fois.
Vous n'étiez pas ensemble ?
Non, je vais seule en montagne. De toute évidence, cet homme faisait la même chose.
Vous n'avez pas entendu crier ? Une personne qui chute crie.
Je n'ai pas entendu crier, sinon je me serais dépêchée pour essayer de porter secours.
Qu'emportez-vous dans votre sac à dos? Des jumelles et quoi d'autre?
Un bout de corde, des mousquetons au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté, une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger ni à boire.
Pas de boussole?
Je ne vais pas en mer.
Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps?
Par le journal.
Une étrange surprise, n'est-ce pas? Vous vous trouviez sur le même sentier peu fréquenté, 40 ans après le procès.
Lui ou un autre, il se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs, c'est une question de chance.
Des accidents. Décidez si celui-ci en est bien un et du ressort de ma fonction. La coïncidence éveille les soupçons.
Coïncidence. Une des innombrables qui se produisent autour de nous et que nous ne remarquons même pas. Mais, dans ce cas précis, le mot coïncidence ne vous suffit pas.
Pour décider qu'il s'agit d'un accident, je dois parvenir à exclure qu'il y ait eu une rencontre intentionnelle entre vous et cet homme, qui fut autrefois un collaborateur de justice, qui a contribué à l'arrestation d'un bon nombre des vôtres, vous compris, et qui a purgé pour ça une longue détention.
Vous, vous êtes disposé à parler d'accident du travail quand il s'agit en réalité d'homicide de travailleurs, poussé au-delà des limites de leur résistance et des conditions de sécurité. Vous qualifiez d'accident les dizaines de milliers de blessés et le millier de morts dus au travail manuel chaque année en échange d'un salaire. Mais ici, vous doutez du mot accident, quand il se rapporte à une activité périlleuse, ludique, avec des risques pris délibérément, en toute conscience du danger encouru. Ce sentier de la vire est difficile. Est-ce moi qui ai amené cet homme là-haut ? Est-ce moi qui l'ai porté sur mon dos pour le jeter dans le vide? Ceux qui vont là tiennent compte du précipice. Votre question devrait être, dans de telles conditions, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? La réponse est personne. Nous n'avons pas de commanditaires. Ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant. Drôle de jeu de mots, n'est-ce pas? La montagne, immobile par nature, est un mobile. C'est exactement ça. Elle attire à elle. Chacun a ses propres raisons d'y aller. La mienne est de tourner le dos à tout, de prendre de la distance. Je rejette le monde entier derrière moi. Je me déplace dans un espace vide et aussi dans un temps vide. Je vois comment était le monde sans nous, comment il sera après, un endroit qui n'aura pas besoin qu'on le laisse en paix. Là-haut, je suis un étranger sans invitation et sans bienvenue. Même la guerre d'il y a 100 ans n'a pas marqué les montagnes. Les rochers détachés par les explosions ont roulé comme à toute autre époque, sans laisser de signature. Un livre d'un alpiniste français a pour titre « Les conquérants de l'inutile ». Inutile, cet adjectif a une valeur pour moi. Dans la vie économique, où tout repose sur la partie double donnée à voir, sur le profit et l'utile, aller en montagne, grimper, escalader est un effort béni par l'inutile. Il n'est pas utile et ne cherche pas à l'être. J'ai fait et je fais encore des métiers manuels en tant que salarié. Ils comportent des dangers obligatoires, eux aussi comptabilisés dans la fiche de paie sur la ligne des indemnités de risque. En montagne, je prends mes risques, libre de tâches imposées, ludique et parfaitement inutile. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? La beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l'air, comme le rivage avec la mer. Dépensée gratuitement, mes énergies là-haut me récompensent. Pauvre de moi, je me laisse transporter en parlant de montagne.
Et vous me transportez, moi aussi. Je ne connais pas ces endroits et je comprends mal ceux qui y vont. Je vous prie de continuer.
Vous croyez que je me suis laissée aller à raconter par lassitude, par une défaillance de mes défenses? Vous vous trompez. J'ai appris par mon corps que lorsque je suis fatiguée, je redouble d'attention et de lucidité. Mais je ne souhaite pas revenir sur cette journée.
Nous progressons. Vous expliquez des choses intéressantes à un profane de la ville. Vous est-il déjà arrivé d'appeler le numéro d'urgence?
Non, c'est la première fois.
C'est la première fois que vous êtes témoin d'un accident en montagne?
Tout seul, oui. Les autres fois, l'alerte avait déjà été donnée.
Quel effet cela fait-il d'assister à un accident en montagne?
On essaie tout de suite de comprendre comment ça s'est passé, s'il s'agit d'une erreur ou d'un cas de force majeure. On essaye de s'identifier, puis viennent les commentaires, les discours sur la montagne qui tue. Mais il s'agit d'un milieu sauvage, indifférent à nous. Ce n'est pas un terrain de sport, un parc d'attractions. On y va sans laisser passer. On avance sur un terrain où aucune expérience précédente ni aucun équipement ne garantissent de revenir sain et sauf.
Et la peur? Je ne vous ai pas entendu en parler.
La peur est utile. C'est d'ailleurs une forme de respect et même de révérence due à l'immensité du lieu qu'on traverse. La crainte est le préliminaire de la concentration. Elle n'entrave pas les mouvements, elle en augmente la précision. Il s'agit de peurs bien définies qui ont des noms et des occasions. Elles demandent de la perspicacité à un esprit de décision. Elles sont l'alarme du corps qui sait qu'il est en danger. Sur la vire du banc de Diarac, les mains ne sont pas utiles. On monte et on descend le long de petites bandes d'un sentier à peine tracé par le passage de chamois près de profonds ravins. Mais je parle ici de choses qu'il faut éprouver, qui ne peuvent être transmises par une explication. Et maintenant, ça a assez duré pour moi.
Je vous demande de poursuivre votre récit.
Je vois. À moi, il me reste le choix de ne pas continuer.
Vous voulez faire une pause, prendre un café ?
Non merci, je veux arrêter. Votre technique consistant à faire répéter jusqu'à épuisement a atteint son but. Je suis épuisée.
C'est votre décision. En ce qui me concerne, s'agissant d'un cas de suspicion d'homicide camouflé en accident, je dois vous placer en garde à vue.
Je suis en état d'arrestation.
Vous pouvez faire appel à un avocat de confiance ou il vous en sera désigné un d'office.
Amore mio, je pense à la photo de toi enfant que tu m'avais envoyée à Noël. Un visage de petite coquine ironique, décidée, un regard de défi relevé, droit dans l'objectif. Ça m'a fait sourire et mon sourire ne s'effaçait plus de mon visage. Tu avais 7 ans. J'ignore quand tu liras cette lettre. Pour le moment, je l'écris pour me tenir compagnie en pensant à nous deux ensemble. La pièce qui m'accueille 23 heures par jour s'appelle « Cellule d'isolement ». Mais elle ne m'isole pas du tout de toi et de ce qui compte pour moi. J'ai vécu dans des endroits plus inconfortables. J'ai du papier, un stylo et du temps. Je fais de la gymnastique, je répète mentalement ce que je sais, chansons, vers, proverbes. Je ne sais pas ce que je fais ici, à quel point du code on m'associe. J'ai droit à un avocat, mais je n'en veux pas et je n'en ai pas besoin. On m'en donnera forcément un malheureux qui ne pourra pas refuser. Avec moi, il devra en faire le moins possible. Je me chargerai moi-même de ma défense. J'ai tort de parler de défense, je me chargerai de mon extranéité. Le magistrat qui m'interroge a la moitié de mon âge. Il ignore tout de la montagne et des histoires des années révolutionnaires. C'est moi qui devrais l'interroger. Il n'est jamais allé en montagne et il essaye de comprendre ce que je vais y faire. Je lui ai répondu qu'on n'y va pour rien qui sert à quelque chose, car l'inutile est beau. Je sais que ce n'est pas une explication. Mais avant de poser une question sur un sujet, on devrait savoir de quoi on parle. Je ne demande pas à un pilote ce que c'est que de voler si je n'ai jamais pris l'avion. Je garde la bonne partie de la réponse que je te réserve. Je vais en montagne parce que c'est là-haut qu'est arrivé le bord de la Terre. Sa frontière avec le ciel et l'univers se trouve là-haut. Et alors, en grimpant, je peux aller jusqu'au point où il n'y a plus rien à escalader. Je suis la Terre jusqu'à l'endroit où elle s'est élevée et continue encore à s'élever, car les montagnes grandissent. J'y vais par admiration pour les forces qui dépensent leur énergie démesurée là-haut. Cette année, j'ai traversé des avalanches qui ont effacé des routes, des forêts abattues par le vent, des versants tombés au milieu de la vallée. Et, au milieu de ces effondrements, la vie animale existe et se reproduit. Je croise des chamois qui grimpent en courant, en apesanteur, et plus bas dans les bois, mon passage surprend une biche. C'est une créature dont la pure élégance est l'effet d'une intense surveillance des dangers environnants. Elle transforme sa vigilance en mouvement agile et parfait, sa fuite est une danse. Je savoure chaque rencontre. Si elle s'arrête près de moi, je m'inclinerai et je lui ferai une baisse patte. C'est comique, mais je ne le dis pas pour plaisanter. Elles ne vieillissent pas. Je n'en ai vu aucune devenir toute chiffonnée comme c'est le cas pour nous. Elles meurent précocement avant de traîner leur vie exténuée et épuisée. Je pense à nos journées ici en montagne, à tes réveils grognons qui me suivaient somnolents à petit déjeuner de 7 heures. Tu te réanimais tout de suite en bavardant avec Erika. Je faisais cuire 2 œufs durs pour toi. Puis nous partions pour notre ascension et tu t'arrêtais pour photographier des nuages, des fleurs, des étangs. Avec toi, j'ai appris le mot amour et les jours œufs de Pâques, chacun avec une surprise à l'intérieur. J'avais déjà été amoureux avant de te connaître, mais jamais longtemps. Je cessais de l'être aux premières contradictions. Avec toi, j'ai appris l'amour qui maintient sa prise et sa durée au-delà des disputes, des différends, des défauts, jusqu'à les aimer aussi. C'est l'amour pour ton air contrarié, tes explosions et le retour des sourires ensuite. C'est comme en montagne. Toutes les expressions me plaisent, même la pluie. La saucée prise en grimpant qui ne refroidit pas le corps et n'a pas besoin d'abri. Aussi ai-je décidé que ma définition du mot « amour » était « toi ». Je t'appelle « amore mio » ou bien « amore mi ». Tu dis que ça devrait être plus que ça, que je dois t'aimer encore plus. Je ne sais pas ce que c'est « plus », en quoi il consiste. Je reconnais que je suis médiocre avec toi. À l'école aussi, j'étudiais. Je m'appliquais, mais mes notes restaient au-dessous de la moyenne. Ma spécialité était le 5 sur 10. Mais face au professeur qui m'interrogeait, j'en disais moins que ce que je savais, et j'en étais conscient. C'était une réticence ou une opposition, je ne voulais pas partager. Je conservais pour moi une partie de la réponse attendue. Mais avec toi, je la verse entièrement, et je sais donc qu'elle ne te suffit pas. Avec ce magistrat, je me retrouve face à un interrogatoire du temps où j'étais écolier. Les âges sont inversés. Moi, je suis un vieil élève redoublant, lui un jeune remplaçant qui en sait moins que moi sur le sujet. Avec lui, je retourne à mes réticences. Avec toi, je fais de mon mieux. Et je vois que ça ne suffit pas. Je m'écarte du sujet. Je n'arrive pas à parler d'amour plus de 5 minutes. C'est pour ça que tu protestes. Et moi, je souris comme au début de cette lettre. Je l'achève avec la pensée de ton reproche boudeur.
Amore mio, une autre lettre puisque je dois rester ici. On s'imagine que l'isolement est silencieux. En fait, le couloir des autres cellules est plein de vacarme. Il résonne de cris et de bruits de ferraille en tout genre. Ce soir, j'imagine que je suis dans un bateau à voile en pleine mer. Les journées de lumière se raccourcissent, l'air se rafraîchit. Il fait route vers le nord. Il y a des jours sans vent, à l'arrêt en latitude et en longitude, des jours épinglés par un collectionneur de papillons. Je les ai connus quand j'ai eu l'âge du purgatoire. Aujourd'hui, c'était un de ces jours-là. J'ai refusé de sortir à l'heure de la promenade. Je suis restée dans ma cabine, à regarder les cartes tracées au plafond. J'ignore tout de ce voyage. Je ne sais ni où, ni quand aura lieu l'accostage sur la terre ferme. Ce qui compte pour moi, c'est que les jours aient un sens, avec une proue qui glisse lentement en avant, en compagnie du temps. Je ne regarde pas à travers le hublot la mer basse, illimitée, rien à voir, à mesurer. Et je repense aux années passées, enfermées dans des cellules avec des prisonniers qui s'efforçaient de les transformer en studio. Puis les perquisitions jetaient tout par terre et en refaisaient des cellules. Mieux vaut l'isolement, où il n'y a rien à ramasser, ni à remettre en ordre. Là-dedans, on oublie qu'on est encore dans le monde. Là-dedans, il y a un tas de raisons pour cesser de croire en quelque chose. Alors je m'en sors, en cessant de croire à la cellule. Le magistrat m'a fait savoir qu'il ne me convoquerait pas. C'était aimable de sa part, il ne pouvait me faire attendre. Mais moi, je n'attends rien. Moi, je suis ici, et c'est tout. Et j'essaye de m'habituer. L'objectif n'est pas la liberté, mais de dépasser la première semaine. Une fois franchi ce cap, peu importe combien d'autres. Comme à l'usine, au début, les machines tournent et un ouvrier doit se placer dans l'engrenage jusqu'à ne plus y prêter attention. Ici, à certains moments de la journée, j'oublie où je me trouve. C'est le premier signe d'adaptation. Le magistrat est du sud, lui aussi, mais son accent ne me dit pas d'où. Il peut être des Abruzzes ou de Molise. C'est un grand échalas brun. Il me fixe avec les yeux tristes et pénétrants des photos des grands-parents d'autrefois. Je lui rends son regard. C'est le seul moment d'égalité qui m'est permis, à moi, l'accusé. Quand il voit que je l'observe moi aussi, il se met à feuilleter son dossier. Il a les paupières rouges, des sourcils épais, comme une bonne paire de moustaches. Il porte des lunettes, les retire souvent. Il montre qu'il écoute avec plaisir. Il préfère m'encourager et me donner de la corde. S'il croit que je me pendrai tout seul avec ma propre corde, il perd son temps. S'il croit qu'en parlant, je vais trébucher sur une contradiction, il se trompe de personne. Je ne peux pas trébucher, car en montagne, si on trébuche, c'est la chute. Il me soupçonne d'avoir jeté cet homme du haut de la vire. Pour toi, peu importe que je sois coupable ou non. Tu m'as voulu tel que j'étais, tu ne t'es pas soucié de mon passé. Tu ne m'as rien demandé sur cette époque d'affrontement et de colère publique. Je te suis reconnaissant de ta volonté, de faire que le passé commence avec nous deux. Celui que j'étais avant t'importe peu. Tu ne me quitterais pas si j'étais déclaré coupable. Nous en avons parlé un jour, de façon abstraite. Si je devais aller en prison, tu ne viendrais pas me voir et tu ne m'écrirais pas, mais tu m'attendrais. Nous nous sommes même serré la main pour sceller notre pacte. Pour toi, il n'y a que nous deux qui comptons. Le reste du monde est si flou qu'il faut mettre des lunettes pour le voir. Tu vis loin, là-bas, au-delà des méridiens, mais je suis habituée à te parler comme ça aussi. Là-dedans, je parle à haute voix avec moi-même, pour te faire savoir ce que je fais et ce qui me passe par la tête. Pour moi, la liberté n'est pas de pouvoir aller me promener, mais de garder ensemble les mots pour toi et leurs conséquences. Je te dis que je t'aime et je le fais continuellement. La liberté, c'est de nous garder ensemble, même là-dedans. Aucune cellule ne peut m'enlever cette liberté. Je n'ai rien contre ce magistrat. Avec moi, il tente un dialogue à la Socrate, il veut être l'accoucheur de la vérité. Réminiscence scolaire, l'art de la maïeutique. S'il cherche une vérité nichée en moi, s'il croit la porter à la lumière comme un nouveau-né, il s'apercevra fatalement que je ne suis pas enceinte. Avec cette boutade de mauvaise qualité, je termine cette lettre. À la prochaine, Amore mi.
C'était Célia
et Claire.
Bisous!